Bienvenue dans Les Voix de l'Engagement, l'émission qui donne la parole aux bénévoles. Une semaine sur deux, le mercredi à 13h, c'est votre rendez-vous militant. Sur Radio G 101.5 et sur radio-g.fr. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes là pour faire entendre les voix de l'engagement et aujourd'hui, il est question de la fin de vie. Saviez-vous que 92% des Français sont favorables à l'aide active à mourir en situation de maladie grave et incurable?
Pour témoigner de l'engagement sur ce sujet, nous recevrons Jean-Louis Chevreau, bénévole de l'ADMD. Ensuite, nous écouterons la chronique de nos chroniqueurs du dispositif Ulysse du Collège Jean Villard. Puis, comme toujours, nous terminerons par quelques appels à bénévolat. Alors que le projet de loi sur la fin de vie doit être présenté en Conseil des ministres, nous débutons par l'expression d'une volonté forte de changement.
Nous, collectifs mutualistes, militons pour qu'en France, toutes les personnes en situation de fin de vie soient égales, en droit et en dignité, ainsi que libres de leur choix. La société doit protéger l'ensemble de ses membres et notamment les plus fragiles. En situation de fin de vie, chaque personne, indépendamment de ses moyens financiers, de son âge ou de son lieu d'habitation, doit pouvoir, avec ses proches, bénéficier d'une prise en charge de la douleur physique et psychique et d'accompagnants permettant de faire perdurer le bien-vivre au-delà des pathologies. Le sujet de la fin de vie doit avant tout être un sujet de vie. Il ne s'agit pas uniquement d'aider les personnes à survivre à leur pathologie, mais bien de leur permettre de continuer d'exister en apportant de la vie aux années gagnées par une prise en charge attentionnée et personnalisée. Chacun, quel que soit son niveau de revenu, son âge ou son lieu d'habitation, doit pouvoir accéder à des soins palliatifs si son état de santé l'exige. La démocratie sanitaire doit être renforcée en donnant à chacun une information complète sur ses droits. Afin de favoriser l'égalité de droits et le respect des volontés de chacun, une meilleure appropriation du dispositif des directives anticipées constitue un enjeu majeur. En cas de souffrance résultant d'une maladie grave et incurable ou d'un accident, chaque personne doit pouvoir disposer de la liberté de faire des choix. Il s'agit de pouvoir prendre des décisions éclairées en lien avec les professionnels de santé concernant sa prise en charge, mais aussi concernant un possible recours à l'aide active à mourir. L'aide active à mourir doit être strictement encadrée par la loi et sa pratique rigoureusement suivie. Ce choix intime est une affirmation de la disponibilité de son propre corps, de la liberté de conscience et d'expression, en accord avec le principe de laïcité, respectueux des croyances de chacun. Cet extrait du manifeste MGEN sur la fin de vie est le fruit d'un travail collectif, démarré en 2021 après une large consultation des militants et des adhérents. Pour contribuer au progrès social, qu'il soit mutualiste ou associatif, le rôle des bénévoles est essentiel. Jean-Louis Chevreau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes bénévole dans l'association ADMD, c'est-à-dire l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'ADMD?
Eh bien, comme tout engagement, c'est souvent lié à une histoire personnelle. Quelque chose qui a touché profondément, c'est effectivement donc la situation de ma pauvre mère à l'âge de 96 ans, qui était touchée par la maladie de Parkinson, devenue aveugle et paralysée, alors que c'était une femme très active. Et donc, elle était en EHPAD, et je garde en mémoire donc le médecin devant l'assistance de ma pauvre mère, qui disait « mais je veux partir ». Et le médecin de lui répondre « où voulez-vous partir ?» Et donc, il a fait venir également, alors après je me suis engagé un peu plus, et je lui ai dit « mais enfin, tout de même, je voudrais voir ce qu'il en est de cette situation et de cet engagement auprès du médecin ». Et il a fait venir le médecin responsable des soins palliatifs du CHU d'Angers, et qui disait que j'interprétais mal sa parole. Quand elle disait « je veux partir », elle veut dire simplement « je veux rentrer dans ma maison ». Et c'est en ces sens d'ailleurs, parce que c'était donc le responsable des soins palliatifs, que je me suis dit « mais palliatifs en quel sens ?» On connaît tous le bienfait des soins palliatifs, mais il ne faudrait pas que palliatifs deviennent finalement un masque qui cache. D'ailleurs, c'est l'origine du mot pallium en latin, qui veut dire le voile qui cache, et qui cache peut-être justement cette responsabilité que nous avons, nous, devant la parole de ces gens qui souffrent. En fait, les soins palliatifs ne doivent pas dissimuler la souffrance ou l'angoisse du sujet, qui demande à mourir, qui demande finalement à ce que l'on l'aide à finir sa vie parce qu'il souffre. Et ce refus de comprendre et d'accepter cette demande d'euthanasie, c'est pour moi, ça relève de cette négation de l'autonomie, de la volonté, de la liberté de chacun de nous. Et ce n'est pas parce que le malade vit une situation de dépendance ou de vulnérabilité qu'il faut rejeter sa demande. Et il est vrai que cette demande est aussitôt rejetée en réactivant, bien sûr, l'interdit de l'homicide, et mieux encore en songeant que ce rejet serait protecteur. Et c'est le problème, finalement, du corps médical qui éprouve dans cette demande d'euthanasie une angoisse. Et c'est un petit peu comme l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Il a fallu se battre des années pour que, même aujourd'hui, elle soit finalement enregistrée dans la Constitution. Il faut finalement accepter cette demande d'euthanasie et il faut que recevoir cette parole, cette personne me demande de poser un geste de mort qu'il va falloir assumer. Et ça m'a fait penser à cet humour très particulier d'un auteur que j'admire, Franz Kafka, qui disait, alors qu'il était en fin de vie et qu'il souffrait beaucoup, il disait à son médecin, « Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ».
Alors, vous êtes entré tout de suite dans le vif du sujet, mais si oui. On revient un petit peu à vos engagements antérieurs, est-ce que vous avez adhéré à une association auparavant ?
En tant qu'enseignant d'éducation nationale, j'ai été toute ma carrière au SGEN-CFDT. Donc, c'est un engagement. J'ai même été délégué là, auprès du rectorat, etc. Donc, c'est pour moi, oui, effectivement, le fait syndical est un engagement et je vois pas autrement donc le métier et les enjeux qu'il y a actuellement en dehors d'une vie syndicale. Je m'en inquiète parce qu'à la fin de ma carrière, je voyais qu'il y avait de moins en moins de profs syndiqués. C'était très inquiétant.
D'accord. Donc, c'est pas nouveau pour vous de vous engager pour...
Non.
Alors, quoi consiste votre engagement aujourd'hui dans l'ADMD ?
Mon engagement dans l'ADMD, c'est de faire évoluer cette idée d'aide active à mourir, qui naturellement a trouvé sur des plans parfois donc professionnels, la médecine et la religion, qui voyait toujours dans cette aide active à mourir quelque chose de pervers, quelque chose qui allait au contraire, le contraire de cet engagement du médecin de maintenir la vie et de l'aider. Je pense que de maintenir la vie d'un individu qui est conscient de sa situation, c'est aussi de l'aider à mourir le plus facilement possible pour ne pas qu'il souffre, bien évidemment.
Donc, votre combat aujourd'hui, il consiste en quoi ?
Aujourd'hui, nous sommes près de quelque chose qui, finalement, nous fait espérer, après des années et des années de combat que la DMD a représenté. Au niveau national, il est évident que nous avons des relations importantes avec les membres du gouvernement. Nous essayons de faire connaître nos enjeux. Et puis, je vois là, par exemple... Compte tenu de ce que le président de la République a lancé, c'est-à-dire l'idée d'un projet de loi sur la fin de vie, eh bien, nous avons, pour nous engager et pour faire avancer les choses, nous allons rencontrer les députés pour discuter avec eux et dire, voilà, nous sommes là au pied du mur et il faut nous engager pour que finalement ce projet de loi soit véritablement, selon, je dirais, des engagements, enfin des points de vue que nous soutenons.
Vous avez parlé de votre engagement dans le champ syndical. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre engagement au sein de la DMD, vous faites des retours, vous avez des liens aussi avec le champ des syndicats ?
Nous informons tous ceux que nous pouvons connaître. Et donc, cette mutuelle, la vôtre, et bien sûr, nous en sommes très satisfaits. La dernière rencontre que nous avons eue avec vous, c'est pour nous une chance et d'importance de faire connaître notre combat. Jusqu'ici, nous n'avons pas été non très proches de mutuelles ou de syndicats, non, certainement pas.
En complément, est-ce que vous avez des associations alliées? Je pense à des associations comme Amnesty International, des associations qui militent autour des droits. Est-ce que vous faites des relations avec ces associations?
Je ne sais pas, peut-être à ce niveau national, peut-être y a-t-il des liens entre la DMD et certains groupes engagés sur un plan éthique et politique. Je ne sais pas trop comment les choses sont vécues. Je sais qu'il y a d'autres associations qui militent également pour effectivement l'aide active à mourir, c'est certain. Il y a d'autres engagements. Disons que la DMD est l'organisation la plus forte et la plus importante dans ce mouvement.
Merci Jean-Louis Chevreau. Tout de suite, la pause musicale avec Fabrice qui nous présente le morceau choisi.
Et on écoute aujourd'hui un extrait de la bande originale du film De son vivant, réalisé en 2021 par Emmanuel Berco. On y retrouve Benoît Magimel dans le rôle de Benjamin, un quadragénaire qui découvre brusquement qu'il est atteint d'un cancer du pancréas, le condamnant à court terme. Le film raconte comment Benjamin tente de gérer sa fin de vie et de se préparer au mieux à son tragique destin, avec l'aide de sa mère, jouée par Catherine Deneuve. Tout de suite, No Film Compares to You, chanson écrite par Prince au départ, et qui a été rendu célèbre par l'interprétation de Sinéad O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your can take away this blues, 'cause
Voix de l'engagement, l'émission à l'écoute des bénévoles sur Radio G 101.5.
De retour avec notre invité, Jean-Louis Chevreau, bénévole dans l'association ADMD. Pour débuter cette seconde partie, pouvez-vous nous éclairer sur le mode de représentation différents échelons ? Département, s'il y a un niveau régional, national ?
Il y a effectivement une représentation donc nationale qui transmet ce que nous retenons localement et qui gère aussi toutes ces relations également avec le gouvernement. Donc c'est une position d'importance, bien sûr, militante, très importante.
Et au niveau local, c'est une présidence, c'est une délégation ?
C'est une délégation et donc... nous avons une déléguée élue, que nous avons élue, et moi je suis délégué adjoint, enfin nous sommes finalement trois personnes, et puis un groupe d'une dizaine de personnes dans notre ADMD 49, et très engagés, très liés les uns les autres, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'amitié, ça fait déjà des années, hein, pas mal d'années que nous sommes ensemble, et puis des fois, bon, on perd un peu courage parce que ça venait pas, puis là, je vous dis, cette proposition de loi du président de la République nous a dit, on est peut-être sur la bonne voie, il faut continuer plus que jamais pour définir nos positions, les préciser.
Et pour mobiliser, vous organisez des assemblées générales, des assemblées départementales ?
Ah oui, bien sûr. On organise bien sûr même des rencontres au niveau national, hein, bien sûr. Et là, tous les délégués des ADMD régionales se rencontrent pour discuter de l'orientation de notre combat. C'est très structuré, bien sûr. Et puis, au niveau local, eh bien, nous nous réunissons assez souvent, malgré tout, pour discuter de ce que nous allons faire. Et pour dire, par exemple, que là, le 1er juin, il y a effectivement une rencontre qui aura lieu donc à Angers, au Salon Kurnonski. Et puis là, nous avons invité quelqu'un qui est important dans l'ADMD, moi que je connais aussi, qui est un grand médecin, Jean-Louis Touraine. Et il va parler de son engagement, de l'espoir que nous avons de faire avancer les choses. Et nous ferons tout pour que la publicité soit bien perçue, entendue.
Au regard de la complexité du sujet que vous portez, avez-vous des professionnels comme des juristes ou des médecins qui vous accompagnent ?
Des médecins, oui, je vous dis, Jean-Louis Touraine est un médecin, mais nous en avons d'autres aussi qui nous soutiennent. Tenez, il y a aussi, j'en profite là, vous savez, Jacques Monod, qui a été prix Nobel de médecine, ça n'est pas rien, hein. Il a signé avec 37 autres médecins, universitaires, hommes de foi même, hein, un manifeste et qui dit, si vous me permettez, en deux phrases, « Nous affirmons qu'il est immoral de tolérer, d'accepter ou d'imposer la souffrance. En d'autres termes, il faut fournir le moyen de mourir doucement, facilement, à tous ceux qui sont atteints d'un mal incurable ou de lésions irrémédiables, à ceux qui sont parvenus au dernier stade. » Vous voyez, le prix Nobel de médecine, Jacques Monod, c'était donc en 70.
En vous entendant, puis en connaissant votre parcours d'enseignant en philosophie, est-ce que vous avez dans vos adhérents des jeunes que vous pourriez ou que vous mobilisez ?
Il y a un groupe de jeunes militants de l'ADMD qui, pendant l'été, avec leurs petites camionnettes, font des tours sur les bords de mer pour rencontrer des gens, faire savoir ce qu'est l'ADMD. Et c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans. C'est pour nous un grand espoir. C'est très bien que ce ne soit pas seulement du troisième âge qui parle à ce sujet.
Je reviens sur la loi, le projet de loi, et je me permets de revenir également sur la loi actuelle, la loi Claeys-Leonetti, qui prévoyait un développement donc des soins palliatifs. Alors comment vous avez suivi cette volonté politique et qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ?
Eh bien, ce sont des pas successifs. Cette aide active à mourir, elle doit être ouverte à toute personne en phase avancée ou terminale. même en l'absence d'un diagnostic de décès à brève échéance, parce que ce qui avait été proposé, c'était donc finalement, il fallait ce soit à brève échéance. Nous, on pense que ça peut être aussi à moyenne échéance et peut-être beaucoup plus en avant, surtout par la possibilité, et ça, nous y tenons beaucoup, il faut que les gens remplissent des directives anticipées. C'est important, ça ne fait pas mourir. J'ai rempli mes directives anticipées, j'espère bien vivre encore quelques bonnes années. Mais bon, voilà, je sais ce que je veux. Je veux que mes enfants sachent exactement ce qu'il en est. Et cette aide active à mourir doit pouvoir être demandée de manière anticipée. Voilà, c'est cela. Les directives anticipées, ce n'est pas au dernier moment, hein, bien sûr, hein, pour une application ultérieure. Et surtout, dans le cas, imaginez, le cas de troubles cognitifs graves, avec toutes ces maladies neurodégénératives, il est évident que souvent elles altèrent le discernement du patient. Et donc, par conséquent, il faut qu'il y ait ces directives anticipées. Ce qui n'empêche d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont fait des directives anticipées, qui ont été, qui ont subi une maladie grave et difficile, et qui n'ont pas demandé l'aide active à mourir, qui se sont laissés mourir. Pourquoi pas ? Parce qu'il n'y a aucune obligation, ce n'est pas un piège, en disant « Ah, vous avez signé, donc voilà ». Bon, le suicide assisté et l'euthanasie doivent être autorisés dans la loi. C'est cela qui est important, d'autant que nous le savons bien. Les médecins les plus humanistes savent très bien que dans des situations difficiles, hein, eh bien, bon, ils font ce qu'il faut, hein, pour libérer la personne de cette souffrance. Et, mais malheureusement, nous voudrions quelque chose qui soit d'ailleurs en plus entendu et compris et accepté, par exemple, que l'ensemble de la famille vienne avec le patient dans ce moment extrêmement difficile. Il y a eu des films, il y a eu de très belles choses qui ont été faites à ce sujet pour faire sentir cela, parce que ça, c'est important. Et non pas nous, au téléphone, on téléphone à l'hôpital, on dit « Alors, non, pas encore aujourd'hui, bon, peut-être demain, etc. » Puis il est tout seul à mourir, la personne que nous aimons. Nous voudrions être avec lui et finalement l'accompagner dans sa décision, bien sûr, et avec une loi légale, de partir avec lui, de l'accompagner dans sa fin de vie. Voilà ce que nous souhaitons.
Alors, vous évoquez donc des éléments qui pourraient faire partie de la loi. Il y a des choses qui se font déjà dans d'autres pays. Est-ce que vous avez des retours, est-ce que vous avez des échanges avec ce qui se passe dans des pays frontaliers dont on parle ?
Oui, bien sûr. Alors, pour nous, et la Suisse et la Belgique, c'est évident. Hein. Nous avons d'ailleurs, nous, à DMD 49, reçu un médecin belge qui a été, pour nous, très éclairant, remarquable, et qui travaille toujours, justement, dans ce domaine, et qui fait beaucoup et qui nous a beaucoup apporté, sans aucun doute. Hein. Ça compte pour nous.
Et comment avez-vous accueilli, puis reçu les propositions issues de la Convention citoyenne ?
Ah ben, je dirais que ça a été pour nous, en fait, une déclaration nationale de cette réalité que 80%, sinon même 90% des Français, désirent une loi pour cette aide active à mourir. Voilà, tout simplement. Maintenant, nous, à DMD, on ne veut pas que ce soit quelque chose de superficiel, on veut que ce soit très engagé et très conforme à cette liberté que nous défendons depuis des années.
Le projet de loi sur la fin de vie doit être présenté en Conseil des ministres. Est-ce que vous avez des demandes spécifiques ?
Des demandes spécifiques, c'est-à-dire que j'espère que nous allons pouvoir suivre clairement les étapes de ce débat, de cette discussion, hein, qu'elle soit entendue, qu'il y ait aussi, pourquoi pas, je dirais, par voie de presse, des commentaires, des discussions au sein des ondes, comme ici, avec Radio G, mais avec d'autres également, pour que l'ensemble des Français comprennent l'enjeu d'importance qui va se jouer.
Merci Jean-Louis Chevreau. On retrouve tout de suite la chronique des jeunes engagés.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous nous retrouvons après...
Pôle horticole.
Après le pôle horticole, exactement. Et aujourd'hui, nous allons interroger Gwendal sur sa semaine de stage qui, qu'il a pu faire chez un maraîcher.
Et t'as fait quoi avec ton stage?
Alors, mon stage, c'est au maraîcher à Cornet. Au tout début, j'ai mis les pommes de terre dans un sac. Il faut que ce soit 5 kilos.
Est-ce que c'était difficile à faire pour toi?
Non, au début, je pensais que j'allais pas y arriver. J'y suis arrivé du premier coup.
Et Cornet, il est où?
À côté d'Angers. Un peu moins de 30 minutes.
Et pendant ce stage, qu'est-ce que tu as pu faire d'autre?
Un vélo plastique pour planter des courgettes, des fraises.
Est-ce que tu as pu travailler sur d'autres légumes?
Plein de légumes. Carottes, il faut mettre dans la caisse et tout. Il y avait les cardes qui étaient difficiles à enlever.
On voit que travailler chez un maraîcher, c'est assez fatigant.
Et Philippe, il m'a dit, c'est le métier qui rentre.
Tout à fait.
Est-ce que j'adorais dans ce stage, je peux dire?
Vas-y.
Les chats, parce qu'il y avait 5 chats, ils étaient trop mignons. Il y a un chat, je travaillais, mais le chat, il m'empêchait parce qu'il voulait des caresses, il était trop mignon.
Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention et cette découverte.
Au revoir.
Au revoir.
Les brèves de l'ESS. Lors de la semaine de l'ESS qui a eu lieu en mars, il a été rappelé comment cette manière d'entreprendre permettait de répondre à des besoins de proximité. Pour les brèves de cette semaine, nous sommes partis d'un quartier d'Angers, doté d'un tissu associatif riche, mais qui doit faire appel à des bénévoles. Le centre Tati accueille, lors de leur Tati-déj du mercredi, les habitants de Belbeille. Tous les mercredis matins, le centre propose en effet un petit déjeuner convivial et copieux pour lequel il recherche des bénévoles. Ces derniers préparent le petit déjeuner, installent la salle et servent les habitants entre 8 et 10h30, le tout dans une ambiance conviviale. Cette initiative est une belle action pour lutter contre l'isolement et rencontrer d'autres habitants. Le centre Tati recherche également des bénévoles pour participer à des ateliers de conversation en français dans un parcours d'apprentissage. Ces ateliers sont des moments conviviaux s'appuyant majoritairement sur la pratique du français oral. Afin de garantir une bonne qualité d'accueil, l'association limite le nombre d'apprenants à 3 ou 4 par bénévole. Vous aimez le bricolage, vous avez des compétences de réparateur? Toujours au sein du quartier de Belbeille à Angers, l'association du centre Tati vous invite à rejoindre leur espace brico. Chaque semaine, l'espace brico accueille des habitants qui veulent bricoler, construire ou réparer des objets tous les mercredis de 10 à 12h et de 14 à 17h. Dans cet espace, les habitants peuvent aussi apprendre à utiliser des outils. Les bénévoles sont là pour accompagner les habitants dans cette utilisation en lien avec un salarié de la maison de quartier, l'association l'établit. Lors de ces rencontres, les habitants viennent avec des objets à réparer, vêtements, matériel informatique, meubles, et un groupe de bénévoles les aide à réparer tout en leur expliquant et les aidant à apprendre comment le faire seul. Vous souhaitez donner de votre temps auprès d'une association engagée depuis 1972 au service de tous sur le quartier de Belbeille, n'hésitez pas à vous rendre sur le site jeveuxaider.gouv.fr où vous retrouverez ces annonces mais aussi bien d'autres.
Dans la prochaine émission, nous aurons le plaisir de découvrir un autre mode d'entreprendre en ESS avec Ludovic Mézy, bénévole de la SCOP Savoir Plus. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Jean-Louis Chevreau pour votre témoignage et votre engagement au sein de l'ADMD.
Je vous remercie beaucoup de faire entendre pour un grand public notre activité importante et surtout de grande actualité, les positions de la DMD et du projet de loi qui va être débattu. Ça me semble important et je vous remercie beaucoup pour votre invitation.
Bien, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour la découverte d'une nouvelle personnalité du monde de l'ESS et de nouvelles chroniques. Au revoir à tous.
Au revoir.